Europe 1. Ondelat raconte. Christophe Ondelat.
Aujourd'hui, l'histoire d'un homme qui a mis 45 ans pour dévoiler le lourd secret qu'il portait depuis ses 11 ans. Le secret qui a bouleversé sa vie. L'histoire donc de Raphaël, violé par un pédophile à l'âge de 11 ans en 1971, et qui récemment, finalement, malgré la prescription, a porté plainte et découvert au passage qu'il y en avait eu d'autres, comme lui. Histoire que je tire donc du livre de Raphaël Hémet, chez Max Milo. Ce sera notre secret. Il est là, bien sûr. Bonjour Raphaël.
Bonjour.
C'est donc votre histoire que je vais raconter, et évidemment vous serez là tout à l'heure, pour la débriefer avec moi. Je l'ai écrite avec Éloi Audouin-Rouzeau. La réalisation est de Céline Lebras.
Europe 1, Christophe Ondelat.
Au mois de juillet 1971, pour la deuxième année consécutive, le petit Raphaël, 10 ans, part en colo à Ormois, dans Lyon. Une colo à l'ancienne, avec de grands dortoirs sombres qui sentent le renfermé. Le dirlo s'appelle Jackie. Bonjour à tous. J'espère que vous avez fait un bon voyage. Je voudrais vous rappeler que nous allons vivre en communauté, hein. Que donc c'est pas comme à la maison. En communauté, il y a des règles, il y a des droits et il y a des devoirs. Jackie présente les moniteurs. Ah, je voudrais aussi vous présenter l'infirmier cette année. Approche-toi, Jean. Voilà, il s'appelle Jean. Il est étudiant en médecine. Tu peux peut-être dire quelques mots, Jean ? Ben oui, je suis super content d'être là. J'aime bien m'occuper des enfants. Puis si vous avez le moindre bobo, y a pas à hésiter, il faut venir me voir. Je suis là pour ça. Dans cette colo très typique des années 70, l'essentiel des activités consiste à se promener à la campagne. On remplit un sac à dos de sandwichs, de chips et de fruits. Vous n'oubliez pas les gourdes, hein ? Et on marche.
Dans la route, y a pas de rein, y a des mouilles, mais ça ne se prend pas.
En portant le sac à dos, à tour de rôle. Et à midi, on s'arrête pour déjeuner, en général près d'une rivière. On se baigne dans une eau glacée, on joue à Tarzan avec les lianes, et retour à pied. Le petit Raphaël aime bien la compagnie des adultes. Alors souvent, il va voir Jean à l'infirmerie pour une égratignure, pour une ampoule ou pour rien. Parce que ça sent bon à l'infirmerie. N'hésite pas à revenir, hein, Raphaël. Je me sens un peu seul ici. Je m'ennuie un peu. L'année d'après, l'été 1972, Raphaël revient à Ormois. Il a 11 ans et il en a marre des balades à la campagne, marre de jouer à Tarzan avec les branches. Il s'ennuie un peu. Et puis Jean, l'infirmier, n'est pas là cette année. Il lui manque. Pourquoi il n'est pas là, Jean ? Oh, écoute, il est dans une autre colonie. Je pourrais avoir son adresse ? Le dirlo lui donne l'adresse de Jean et Raphaël lui écrit. Et Jean lui répond « Mon très cher Raphaël, je suis très heureux de recevoir des nouvelles de toi. Je suis surpris que vous n'ayez pas de beau temps. Ici, par contre, il fait très chaud. Quels sont les enfants de l'année dernière qui sont revenus cette année? Ils pourraient peut-être m'envoyer un petit mot. Je compte sur toi pour leur donner mon adresse. » Et puis quelques jours plus tard, arrive une carte postale de Jean. Et puis une autre. Et puis encore une autre, à la maison, en septembre. J'espère qu'on se verra avant la rentrée. Amitié à ta famille, Jean. Et il tient sa promesse. Un jour de septembre, il arrive en Sim Camille. Les parents de Raphaël lui font un bon accueil.
On vous offre un apéritif.
Alors, il a été sage, Raphaël, en colonie? Vous savez, moi, je n'étais que l'infirmier, mais... Oui, je crois qu'il a été sage. Il leur raconte qu'il est de milieu modeste, qu'il fait médecine, qu'il travaille l'été pour payer ses études. Il est séduisant. Et Raphaël est content de le revoir. Et il est fier quand Jean l'emmène faire un tour en voiture. Dis donc, la semaine prochaine, je suis de garde. Mais si tu veux, on se revoit dans 15 jours. Il fait beau. Le soleil entre avec délice dans la cime Camille. Raphaël a ouvert la vitre. Dis, Raphaël, si tu veux, je peux faire ton éducation sexuelle pour que tu saches comment faire avec les filles.
Ah oui? Si tu veux.
Puis je vais t'emmener voir un film. Il était une fois dans l'Ouest. Il y a une scène où Claudia Cardinal jouit. Je te dirai où c'est. Colo, Raphaël a découvert les Poppies, un groupe de gamins chanteurs très célèbres dans les années 70. Les Poppies, avec leurs cheveux longs, leur côté à la fois innocent et révolté, il les adore. Il veut leur ressembler.
Là-bas, derrière la colline, là-bas, où le soleil décline, j'ai entendu qu'il y a des garçons et puis des filles qui chantent des chansons pop.
Et Jean le sait. Ça te ferait plaisir de faire partie des Poppies?
Oh ben tu parles? Bien sûr que oui.
Eh bien je crois que je pourrais t'aider.
Il le croit. Il est aux anges. Jean enchante sa vie.
Ça s'est passé un jeudi après-midi. Les parents de Raphaël travaillaient.
Va quand même vérifier si la porte est bien fermée. On sait jamais.
Je vais t'expliquer comment on fait pour embrasser une fille.
Oh ben, c'est que j'ai déjà embrassé des filles, hein?
Ah bon? Alors je vais te montrer autre chose. Ils se sont allongés sur le lit, dans la chambre de Raphaël. Et Jean a commencé à l'embrasser. Raphaël n'oubliera jamais l'odeur écœurante de son parfum. Brut 33, de Fabergé. Et puis, il s'est déshabillé, il lui a demandé de faire pareil. À la fin, il a éjaculé dans sa bouche. Et puis, il l'a embrassé à nouveau.
Si ça t'a plu, on pourra le refaire.
Et surtout, t'en parle pas à tes parents, hein. Ce sera notre secret. Une autre fois dans sa cime Camille, Jean emmène Raphaël chez lui, dans son petit studio au rez-de-chaussée. Sombre, ça sent le renfermer. Les volets sont tirés, les rideaux aussi.
Ici, tu vois, c'est là que je révise mes examens. Et puis, c'est aussi ma garçonnière. C'est là que je reçois mes copines.
Sur la table, il y a des livres de médecine, avec des photos d'accidents de la route, mortels.
Tu veux boire un jus de fruits?
Oui.
Il l'embrasse. Brut 33 de Fabergé. Une autre fois, Jean vient le chercher. Raphaël s'est lavé le sexe, figurez-vous, avant qu'il n'arrive. Sim Camille, à l'arrivée, il lui montre le canapé direct. Il n'y a plus d'initiation.
Il n'y a plus de préliminaires. Il déplie le canapé. Il se déshabille. Je me déshabille. Je suis sa chose. Je suis soumis parce que je veux pas trahir son amitié. Je veux pas le décevoir. Je veux pas qu'il s'en aille. Je veux pas qu'il s'en aille. Avec le temps, je me demande pourquoi j'ai rien dit. Cette pensée me hante. Ça se passe comme ça, environ toutes les deux semaines, pendant 2 ans, entre les 11 ans et les 12 ans de Raphaël. Toujours des fellations, jamais de pénétration. Et puis les viols s'arrêtent quand il a 13 ans. À 14 ans, quand il entre au lycée, il n'a plus aucun contact avec Jean. Pourquoi ? Il s'est souvent posé la question. Il se dit qu'il a eu peur. Peur qu'il en parle. Peur d'être dénoncé. À cette époque-là, Raphaël est un peu la tête de turc de sa classe. Il s'appelle Raphaël Emmett. Et tous les autres ont créé le clan des anti-émettiens. Il sait pas pourquoi. Il n'est pas faillot, il est plutôt cancre. Il le harcèle. Il se sent fort. Et lui se sent seul et abandonné. Raphaël, à cette époque-là, commence à boire. Il a 13 ans. Ma mémoire était anesthésiée. On vit, malgré tout. On vit avec des béquilles, l'alcool, le sexe, la drogue un peu. Mais l'alcool, beaucoup. J'ai vécu dans un autre monde. J'y ai survécu. 13 ans, 14 ans, 15 ans, 16 ans, 17 ans. Raphaël boit tous les jours. Le matin à 7h30, avant d'aller au lycée, un petit kir, un blanc cassis au bistrot du coin. Et un autre en rentrant le soir. Raphaël n'a aucun projet. Il s'enfonce. À la maison, il s'engueule avec ses parents. Et le soir, avant d'aller se coucher, il va boire un petit coup de cognac à la bouteille. L'alcool m'a permis de parler aux autres, de communiquer. Je ne pouvais pas vivre enfermé dans mon monde. Il fallait que je le quitte. C'était une question de survie. Raphaël a maintenant 26 ans. Il termine des études de pharmacie et un DEA en biologie. Il a un petit garçon de 11 mois, David, qui ne marche pas encore. Et il boit toujours. Et il a des tocs. Et il est asocial. Une bombe humaine, bouffée de l'intérieur. Ça fait 15 ans que Jean l'a violé. Et un jour, il a son fils sur ses genoux, il le pose sur le sol de l'appartement, il attrape le téléphone. Il a trouvé le numéro de Jean, qui est maintenant médecin généraliste à Montpellier. Et il l'appelle.
Allô ?
Allô ? Jean ?
Oui ?
C'est Raphaël. Je t'appelle pour te dire que maintenant je suis interne en biologie à Nantes. Et puis j'ai un petit garçon. Et toi ?
Écoute, moi je suis médecin généraliste à Montpellier.
Ça te plaît ?
Oui, ça va. Il fait chaud ici.
Et comment vont tes parents ?
Mon père est mort. Tu te souviens qu'il était bijoutier ? Il a été assassiné dans sa bijouterie par des braqueurs.
J'aimerais bien te revoir. Et te présenter ma femme et mon fils.
Avec plaisir. Écoute, rappelle-moi vers le mois de juin. Cet été, on est au Club Med à Évian, avec ma femme. Vous pourriez passer nous voir ?
D'accord. Raphaël raccroche. Il est content de lui avoir parlé. Content de lui avoir annoncé qu'il avait un fils. Mais le soir, il n'en parle pas à sa femme. Et au mois de juillet, ils ne vont pas à Évian. Thank you.
Raphaël a maintenant 38 ans. Il est bouffé par les angoisses. Une, notamment. Une qui concerne les enfants. Il a peur des enfants. Il a peur de les croiser. Il ne peut pas les toucher. Un jour, il est dans la rue, il se sent pas bien. Il a des nausées, il transpire, et d'un coup, cette angoisse le paralyse. Il a peur de toucher les enfants qui passent. Il a peur d'abuser d'eux. Je suis nuisible. Je suis une merde. Je mérite pas de vivre. Et même ses propres enfants. Il en a deux maintenant. Il a peur de les toucher. Il ne peut même pas les embrasser. Un soir, sa femme est en déplacement à l'étranger, il laisse la nounou s'occuper des petits, il mange seul, le nez dans l'assiette, et d'un coup, tout lui explose à la gueule, comme un flash. Il est tard, il faut qu'il appelle sa femme. Il faut qu'il lui parle maintenant, c'est un besoin vital pour ne pas devenir fou. Allô ? Marie ? C'est moi. Il faut que je te dise quelque chose maintenant, Marie. Quand j'étais gamin, j'ai été violé par un homme, quelqu'un en qui mes parents avaient totalement confiance. C'est la première fois qu'il le dit, et sa femme est psychiatre, et elle l'oriente vers un confrère en qui elle a confiance. J'ai dit oui jusqu'au moment où, n'en pouvant plus, j'ai dit non. La soumission a fait place à la révolte. Il vaut mieux mourir debout que vivre à genoux. Ça n'a pas été facile. Je n'avais pas la sensation que ce pervers m'avait sali. Mais Jean a pris ma dignité. Il a pris mon estime de moi. Raphaël commence alors une thérapie pour réaliser que ça n'est pas de sa faute, pour remettre l'église au milieu du village. Jean est le violeur et lui est le violé. Ça ne se fait pas du jour au lendemain, c'est un long chemin. Il est régulièrement bouffé par les angoisses, un jour à l'opéra par exemple. Il est plongé dans le noir, il ferme les yeux, il n'arrive pas à profiter du spectacle, cette chaleur, cette obscurité, cette promiscuité. Il se sent oppressé, il sent des picotements, il se met à transpirer, à s'agiter sur sa chaise, il voudrait se lever et partir, mais il n'ose pas. Il n'écoute plus la musique, il ne voit plus les chanteurs, il est pétrifié. J'ai peur de mourir, de me tuer, de me suicider. Le mot suicide m'obsède. J'ai peur de tuer quelqu'un. J'ai peur de me balancer sous une rame de métro ou sous un train. J'ai peur de balancer quelqu'un d'un pont. J'ai peur de toucher des enfants. J'ai peur de prendre la parole en public. J'ai peur d'avoir froid. J'ai peur de ne pas être assez couvert. Je suis si différent des autres. Porter plainte. Au moment où Raphaël a fait assez de chemin, c'est trop tard. Les faits sont trop anciens, ils sont prescrits. Mais une amie lui suggère de le faire quand même. Alors un jour de 2016, Raphaël a 55 ans, il appelle le commissariat.
Commissariat de police, bonjour.
Oui, bonjour. Je voudrais la brigade des mineurs, s'il vous plaît.
Ça ne s'appelle plus comme ça, monsieur. Ça s'appelle la brigade de protection des familles. Mais ne quittez pas, je vous passe le service.
Raphaël a un rendez-vous. Il est anxieux. il va devoir se mettre à nu.
Monsieur Aymet, bonjour.
Brigadier de police chez vous. Venez avec moi, suivez-moi. Un jour, on était dans la voiture. Je me souviens précisément, il avait une Simca 1000, blanche et noire. Il m'a dit, je peux te donner des tuyaux pour draguer les filles. J'ai pas vu la malice. Avec le recul, j'étais gamin. Et j'étais sous son emprise. Il était séduisant. Il était un modèle. J'ai dû répondre bêtement. Je pouvais pas être contre. C'est sympa pour un jeune garçon d'apprendre à draguer les filles. Et puis après, une fois par mois environ, il venait chez moi. Il a commencé à abuser de moi. Est-ce qu'à un moment de votre relation, vous dites à Jean que vous ne voulez pas continuer? Non. J'ai beaucoup d'affection pour lui. J'ai de l'admiration. Je veux pas décevoir un grand qui s'occupe de moi. Mais je pense qu'il se rend compte que j'aime pas ça. Mais il s'en fiche, il continue. Pour quelle raison faire ces démarches aujourd'hui, monsieur? Une psychologue m'a dit un jour que si je le faisais pas pour moi, je le ferais peut-être pour d'autres. Je voudrais que cet homme prenne conscience de ce qu'il m'a fait. Que ce qu'il m'a fait m'a accompagné toute ma vie. Que j'emporte des séquelles. Que ça n'a pas été anodin, comme il a pu le penser. La policière dit à Raphaël qu'elle le tiendra informé. Il sort du commissariat, 55 ans, vidé. Et il pleure. Quelques jours plus tard, la policière le rappelle.
Monsieur Aymet. Alors, pour vous tenir au courant, j'ai eu en ligne le commandant de gendarmerie de Montpellier, où il habite. Ils le connaissent bien, figurez-vous. Il a d'autres histoires à son actif. Il a déjà été condamné, c'est un vrai prédateur sexuel, hein. Et il fait actuellement l'objet de procédures pour des faits qui sont non prescrits. Et le juge a accepté que votre plainte soit versé au dossier, même si les faits sont prescrits.
Ah, merci. Merci du fond du cœur, madame. Comment va-t-il se comporter? S'il y a une confrontation avec lui, il a dû changer physiquement. Il a peut-être perdu des cheveux, pris du poids. Est-ce que je le regarderai avec mépris ou avec haine? Est-ce que je lui sauterai à la gorge?
Des centaines d'histoires disponibles sur vos plateformes d'écoute et sur europe1.fr.